Bonjour! Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. To Go, Le Libraire et NCS. Au programme, écran, moins par réflexe, plus par intention. Nos suggestions de lecture jeunesse. Nos suggestions de lecture, fiction. Récit et théâtre. Et la lutte contre l'islamophobie à Québec. Bonne écoute!
Écran, moins par réflexe, plus par intention. Un texte sans auteur paru le 6 juin 2023 dans To Go. Dans notre monde hyperconnecté, il est facile de se laisser envahir par la technologie, surtout lorsque celle-ci est constamment à portée de main, comme nos cellulaires. Il est donc important de reprendre le contrôle de nos activités en ligne et d'adopter une consommation équilibrée et plus consciente des écrans pour favoriser notre bien-être. Réfléchir à notre connexion en mode automatique. On a souvent le réflexe de sortir notre téléphone dès qu'on a un moment à nous, que ce soit dans une file d'attente, en attendant un rendez-vous ou dans les transports en commun. Cette connexion automatique peut également être déclenchée par des notifications ou des alertes, sans décision intentionnelle de notre part. Il faut reconnaître que les écrans sont conçus pour capter notre attention et nous inciter à y revenir fréquemment, tellement qu'on a développé une aversion au fait de s'arrêter, d'écouter, de regarder ce qui nous entoure ou même de ne rien faire. Selon une enquête, 53% des Canadiennes et Canadiens consultent leur téléphone intelligent dès leur réveil et 51% le font avant de se coucher. Dans une journée normale, 43% utilisent leur téléphone au moins toutes les 30 minutes. Ces chiffres montrent l'ampleur du phénomène. Les répercussions de l'usage par réflexe. Une fois qu'on est en ligne, il n'est pas rare d'y passer plus de temps que ce qu'on avait prévu au départ. Voici quelques conséquences que cela pourrait entraîner. 1. Délaisser d'autres activités importantes qui méritent notre attention. 2. Subir du stress à cause de la stimulation permanente des notifications. 3. Avoir du mal à accorder des pauses à notre cerveau pour se détendre et ralentir. 4. Manquer de sommeil à cause d'une heure de coucher tardive ou avoir un sommeil perturbé par des notifications et alertes. 5. Être moins à l'écoute des personnes qui nous entourent et ainsi parfois négliger certaines relations. Résister au réflexe de se connecter. Peut-être qu'on a perdu notre intérêt pour l'émission de télé en cours et qu'on a saisi notre téléphone ou notre tablette pour consulter nos courriels, où on a rencontré un obstacle en travaillant sur un projet et on s'est accordé une pause, passé à naviguer sur le web. Ou encore, on ne peut pas s'empêcher de penser à une situation stressante et on cherche du réconfort sur les médias sociaux. On doit se demander si l'écran et les activités en ligne qu'on y trouvera sont vraiment ce dont on a besoin pour se sentir mieux à ce moment-là. Peut-être que ce qui nous ferait du bien, c'est aller marcher un peu dehors, écouter de la musique, parler à quelqu'un ou prendre de grandes respirations. 10 conseils pour remettre la technologie à notre service. Voici quelques conseils pour briser le réflexe de se connecter automatiquement et reprendre le contrôle de l'utilisation de nos écrans afin de retrouver un sentiment de pouvoir. 1. Désactiver ou limiter les notifications sonores pour éviter la tentation. 2. Retirer les applications les plus accrocheuses de l'écran d'accueil, voire les supprimer complètement. 3. Gérer sa consommation d'informations en se fixant des moments dans la journée pour consulter les actualités. 4. ne pas utiliser les appareils électroniques pendant les repas. 5. Laisser le cellulaire à la maison ou le mettre sur le mode silencieux lors d'activités en famille, en groupe ou en couple. 6. Choisir un moment quotidien pour se déconnecter, par exemple entre 21h et 8h. 7. Utiliser les écrans pour apprendre de nouvelles choses, comme regarder des tutoriels de cuisine ou de bricolage, ou utiliser des applications de méditation et de relaxation pour se détendre. 8. Éviter tout écran dans la chambre à coucher. S'il sert de sonnerie de réveil, gardez le cellulaire loin du lit avec toutes les notifications désactivées. Et pourquoi ne pas se munir d'un réveil matin? 9. Se poser les questions suivantes au moment de mettre la main sur son cellulaire. Est-ce vraiment important ici et maintenant? Est-ce que cela peut attendre? Est-ce que je suis en train d'installer une barrière entre moi et les autres? Est-ce que je ne pourrais pas profiter de cette pause pour faire une vraie pause et appeler un être cher, danser sur ma chanson préférée ou faire une sieste? 10. Reconnaître son point de bascule, c'est-à-dire le moment à partir duquel on retire moins d'avantages et de plaisir à regarder notre écran. Il est important d'expérimenter différentes approches jusqu'à trouver ce qui nous convient le mieux. Il n'y a pas de solution universelle pour améliorer ses habitudes numériques et adopter une utilisation consciente et équilibrée des écrans. C'était « Écran, moins par réflexe, plus par intention », un texte sans auteur, paru le 6 juin 2023 dans Tout Go.
Nos suggestions de lecture jeunesse. Des suggestions de lecture des libraires indépendants proposées le 3 juin 2022 dans le carnet Je lis autochtone, une initiative de la revue Les Libraires. Allez au lit. Sephora Mearns, Jérémy Debicki et Tim Mack. Traduction Maxime Desjardins, Les Malins. Album tout ce qu'il y a de plus amusant pour les petits qui, comme si assis, n'ont pas envie de se mettre au lit. Ici, la petite invoque les animaux du Grand Nord, le caribou, l'ours polaire, les oies sauvages, etc., pour s'amuser avec eux plutôt que de se brosser les dents ou de mettre son pyjama. De quoi plonger entre les draps avec de belles images sauvages plein la tête. Dès 3 ans, une suggestion de l'équipe de la rédaction. Wogwis de la tête aux pieds. Rebecca Thomas et Maya McKibben. Traduction Sylvie Nicolas, Anne Norak. Il est temps pour Wogwis de rencontrer la famille de son papa et d'apprendre ce que cela signifie d'être Mi'kmaq. Elle est nerveuse, ça se comprend. Vont-ils l'accepter? Vont-ils l'aimer? Heureusement, il ne manque qu'une étincelle pour que la petite se sente chez elle parmi les siens. Dès 4 ans. Une suggestion des éditions Anne Norak. Joue du tambour avec cœur. Ren Louis et Carlden Harvey, Medicine Wheel Education. Quand sa mère lui donne un tambour fait à la main en cadeau, Ren apprend les enseignements qu'on lui transmet en lien avec cet instrument. Il découvre que grâce à ce tambour spécial, il peut créer des liens avec sa culture et reprendre confiance en sa voix pour partager avec joie les chansons traditionnelles des siens, la nation Nuushanult. Dès 6 ans, une suggestion de Medicine Wheel Education. Niche, tome 2, Wendake. Isabelle Picard, Les Malins. Les jumeaux Léon et Héloïse se voient obligés de quitter leur village nordique pour s'établir à Wendake, en banlieue de Québec. Comment s'adapteront-ils à cette nouvelle vie? Dans un récit lumineux et vibrant de réalisme, Isabelle Picard met en lumière la réalité souvent méconnue de ses personnages, leur territoire, leur culture, et dans ce deuxième tome, les aléas du déracinement. dès 9 ans. Une suggestion des malins. Si je disparais. Brianna Johnny et Naani Shingus. Traduction Nicolas Aumet, Isatis. En 2016, la jeune Brianna Johnny écrit une lettre pour sensibiliser le public à la négligence des services de police dans la recherche des femmes autochtones disparues. Basée sur cette lettre, « Si je disparais » est un roman graphique percutant et nécessaire qui nous rappelle que la disparition et le meurtre de filles autochtones sont une tragédie qui relève des droits de la personne. Dès 12 ans, une suggestion de Lisatis. Le rôdeur de nuit, Drew Hayden Taylor, traduction Eva Lavergne, édition David. Tiffany, une jeune Anishinabe, voit sa vie bousculée par un mystérieux personnage que son père prend comme chambreur. Auteur prolifique, Drew Hayden Taylor, lui-même Anishinabe, a voulu écrire un roman gothique autochtone, où il aborde les défis de l'adolescence, la transmission de la culture et surtout la nécessité de ne jamais abandonner. Dès 14 ans, une suggestion des éditions David. Étranger. David A. Robertson, traduction Luca Palladino, Kata éditeur. Étranger de David A. Robertson, auteur cri primé, est le premier tome de la trilogie à succès The Reckoner. Avec l'aide d'un esprit malveillant, d'un fantôme défiguré et de ses deux plus vieux amis, Cole Harper tente de résoudre les mystères qu'il a laissés derrière lui il y a 10 ans dans sa communauté Wounded Sky. Dès 12 ans, une suggestion de Kata éditeur. Elle s'appelle Echo, tome 1. Katharina Vermette, Donovan Yasiouk et Scott B. Henderson, Glénat, Québec. Une jeune métisse de Winnipeg de 13 ans, vivant loin de sa mère et qui ne sait rien sur ce que c'est d'être métisse, se fait dire par son professeur d'histoire qu'elle peut l'apprendre, qu'elle n'est pas moins métisse parce qu'elle ne connaît pas son histoire. Ainsi, elle l'apprendra. Tout comme les lecteurs. Dans le premier tome de ce triptyque, l'auteur métisse, salué notamment pour son roman « Ligne brisée », aborde la question de la guerre du Pemmican, une lutte méconnue. À la fin de l'ouvrage, un riche dossier documentaire est annexé. Dès 12 ans, une suggestion de l'équipe de la rédaction. Pilleur de rêves. Sherry Dimeline, traduction Madeleine Stratford, Boréal. Entre réalisme apocalyptique et science-fiction de Cliffy, Pilleur de rêves, récompensé d'un GG, est un roman pour adolescents qui fait l'effet d'un électrochoc. C'est qu'il nous plonge dans un monde ravagé par la guerre et raconte l'histoire d'Autochtones fuyant les recruteurs. Des Blancs qui souhaitent soutirer de leur moelle une substance leur octroyant la faculté de rêver. Or, sans rêve, plus rien n'est possible. Dès 12 ans, une suggestion de l'équipe de la rédaction. C'était nos suggestions de lecture jeunesse, des suggestions de lecture des libraires indépendants proposées le 3 juin 2022 dans le carnet « Jolie Autochtone ». Une initiative de la revue Les Libraires.
Nos suggestions de lecture, fiction, récit et théâtre. Des propositions des libraires indépendants parues le 1er juin 2021 dans le carnet thématique « Je lis autochtone », une initiative de la revue Les Libraires. Mamashkatch, une initiation cri. Daniel J. McLeod, traduction Mary Franklin, VLB éditeur. Ce récit, lauréat du prix du gouverneur général, relate l'enfance de l'auteur, un cri du nord de l'Alberta, qui reçoit de sa mère les enseignements de sa culture. Elle lui transmettra aussi les stigmates d'un passé difficile vécu dans les pensionnats et elle vivra bientôt des déséquilibres qui auront un impact sur le garçon. Au sein de sa famille, Il verra des actes de violence et y sera abusé. Mais une force lui permettra de transgresser sa jeunesse écorchée, et c'est cette même volonté qu'on ressent tout au long de ce livre vibrant. Scylla, Lana Hansen, traduction Inès Jorgensen, presse de l'Université du Québec. Ce conte inuit aborde les changements climatiques grâce au personnage de Tulugak, un garçon capable de se transformer en corbeau et qui souhaite découvrir son territoire, cette terre de glace de l'intérieur. Il sera confronté au concept de territorialité et de mouvement-changement et croisera la mer de la mer, importante dans la cosmogonie groenlandaise. La riche présentation de l'œuvre qui clôt l'ouvrage explique notamment l'importance de la culture groenlandaise et de sa langue, porteuse d'une vision du monde qui ne se traduit pas par des concepts occidentaux. Agokwe, Wawate Fobister, traduction Olivier Sylvestre, dramaturge éditeur. Auteur ontarien d'origine Anishinaabe, Wawate Fobister explore dans cette pièce de théâtre ce qu'on appelle chez les Premières Nations le « two-spirit », soit cette dualité liée au genre et à la sexualité. Fobister dépeint ici la tragique histoire d'amour impossible entre deux autochtones queer, un joueur de hockey et un danseur. C'était nos suggestions de lecture fiction, récit et théâtre, des propositions des libraires indépendants, parues le 1er juin 2021 dans le carnet thématique « Je lis autochtone », une initiative de la revue « Les libraires ».
La lutte contre l'islamophobie à Québec, un texte de Sébastien Bouchard, paru le 13 avril 2022 dans la revue Nouveau cahier du socialisme. Un peu de contexte. Bien qu'observé au Québec dès le 19e siècle, c'est à la fin du 20e siècle que la province compte une plus grande présence de personnes de confession musulmane, quoiqu'elle n'atteigne pas 1% de la population dans la région de la capitale nationale. Les politiques d'immigration ont en effet favorisé la venue de populations immigrantes francophones hautement scolarisées, africaines et notamment maghrébines, résidant surtout dans la métropole. Sur le plan sociopolitique, les personnes d'origine arabe ou de confession musulmane ont cependant participé en grand nombre aux mobilisations massives organisées à Québec en solidarité avec la Palestine et en opposition à la guerre en Irak. D'autres mobilisations, particulièrement pour la défense des droits humains ou lors du printemps arabe, ont aussi permis une certaine jonction avec la gauche et les mouvements sociaux de la région. À la montée du sentiment islamophobe en Occident, exacerbée par le 11 septembre 2001 et la présidence de Trump, s'est ajoutée la croissance d'un nationalisme ethnique québécois alimenté par l'Action démocratique du Québec, ADQ, avec la crise des accommodements raisonnables, le Parti québécois, PQ, avec la Charte des valeurs, et enfin la Coalition Avenir Québec, CAQ, avec les valeurs québécoises et la loi 21, sans oublier le rôle joué par l'Empire médiatique québécois. Plus spécifiquement, dans la région de Québec, la présence importante de la radio poubelle contribue à l'essor du racisme et de l'islamophobie. Enfin, la présence de groupes nationalistes anti-immigration et d'une extrême droite organisée, visible et active dans des groupes comme La Meute et Atalante, ajoute de l'huile sur le feu. L'attentat du 29 janvier 2017. C'est l'attentat au Centre culturel islamique de Québec, CCIQ, qui a conduit à une prise de conscience massive de la présence et des dangers de l'islamophobie dans la région. Rappelons que l'assassin a, de façon préméditée, abattu 6 personnes, blessé plusieurs autres et marqué à vie une quarantaine de personnes présentes sur place. L'assassin a été considéré comme apte à subir son procès et a été reconnu coupable de 6 meurtres au premier degré et de 6 autres tentatives de meurtre. Le procès a aussi mis en relief son intérêt marqué pour des sites web d'extrême droite américains et des vidéos d'autres attentats. Ce fut l'événement québécois le plus médiatisé de l'année 2017 au niveau international. Sur les ondes de TVA Nouvelles, Pierre Bruneau a présenté cet attentat islamophobe comme du terrorisme inversé, le discours médiatique préexistant ayant clairement postulé que le terrorisme devait venir de la part des communautés musulmanes. Les suites. Quelques heures après l'attentat, les premiers rassemblements se sont tenus, dont une vigile organisée par quelques militantes et militants de la région, qui a réuni le lendemain de l'attentat entre 10 000 et 15 000 personnes sous un froid glacial. Par la suite, les initiatives se sont multipliées. Le CCIQ a organisé une marche et des personnes à l'origine de la vigile ont rassemblé des centaines de lettres de solidarité rédigées par des citoyennes et des citoyens et adressées aux familles des victimes. Dans les semaines suivantes, une coordination des actions contre le racisme a pu réunir une vingtaine de groupes issus des communautés culturelles et des mouvements sociaux, dont le Regroupement d'éducation populaire en action communautaire, REPAC, et la Ligue des droits et libertés, ce qui a permis, entre autres, l'organisation d'une manifestation contre l'islamophobie le 18 février. La coordination des actions contre le racisme à Québec est restée par la suite un lieu de concertation pour organiser des conférences, des marches et autres activités antiracistes. C'est aussi devenu, via les médias sociaux, un outil de diffusion des idées et des actions contre le racisme dans la région. Un comité pour l'organisation de commémoration du 29 janvier y a été créé. Depuis, le comité citoyen 29 janvier, je me souviens, a exercé un leadership important en organisant les commémorations annuelles de l'attentat. Les commémorations. Les commémorations organisées à Québec tous les 29 janvier par le comité citoyen, en collaboration avec le CCIQ et avec le soutien de la Ville de Québec, sont des événements majeurs dans la lutte contre l'islamophobie et ont un rayonnement pancanadien important. La première commémoration, un an après l'attentat, a réuni près de 5 000 personnes par grand froid en présence des premiers ministres, de la mairesse de Montréal et du maire de Québec. En janvier 2019, le rassemblement a eu lieu à l'Université Laval, en 2020 à l'église Notre-Dame-de-Foy et en 2021, pandémie oblige, à l'extérieur du Centre culturel islamique avec diffusion en direct. D'initiatives citoyennes et militantes, ces événements ont eu droit à une visibilité médiatique importante où l'expression de la solidarité envers les proches des victimes s'est conjuguée avec des prises de position claires contre le racisme et l'islamophobie par le comité organisateur et ses alliés. On cherchait à atteindre autant les communautés musulmanes que l'ensemble de la population et des liens ont été établis avec les victimes du féminicide de la Polytechnique ainsi qu'avec les victimes québécoises d'un attentat commis à Ouagadougou en 2016. Les commémorations ont aussi permis des prises de position, entre autres contre le refus de François Legault de reconnaître qu'il y a du racisme systémique au Québec. La lutte continue. La lutte contre l'islamophobie a pris d'autres formes dans la région. On peut penser aux batailles menées contre les radios poubelles et contre l'extrême droite, entre autres par la campagne « Liberté d'oppression » et le travail de vigie du groupe « Sortons les poubelles ». Des mobilisations contre la loi 21 de la CAQ ont eu lieu à Québec sous le leadership de jeunes femmes musulmanes. Ces dernières se sont d'ailleurs impliquées par solidarité dans les mobilisations de Black Lives Matter, de même qu'en appui aux Autochtones et à la cause palestinienne. Notons que d'autres enjeux et d'autres solidarités ont émergé, comme l'implication du CCIQ par son porte-parole Boufelja Ben Abdallah, ainsi que des survivants de l'attentat dans la campagne pour le contrôle des armes à feu menée par Poli se souvient. Des liens ont aussi été créés au niveau international, notamment avec le groupe One World Strong, fondé à la suite de l'attentat de Boston. Bilan et perspectives. Les importantes mobilisations contre l'islamophobie ont permis de tisser une toile de solidarité antiraciste à Québec. Un front large, incluant la mairie de Québec, les mosquées, des militantes et militants antiracistes, des députés et plusieurs organisations religieuses et sociales de la ville, a permis non seulement une unité de parole autour de l'attentat du 29 janvier 2017 et de ses suites, mais aussi en réaction à des événements comme l'attentat antisémite de Pittsburgh en 2018 et celui islamophobe de Christchurch en 2020. Par ailleurs, une solidarité interconfessionnelle unique s'est tissée dans la région. Sur le plan politique, les élections municipales ont favorisé l'émergence de plusieurs candidatures importantes issues de la diversité, dont des personnes impliquées dans la lutte contre l'islamophobie. La lutte pour la construction d'un Québec inclusif implique de maintenir et de développer cette solidarité. Mettre fin au racisme et à l'islamophobie est un travail de longue haleine qui exige de consolider la jonction politique entre la gauche et les membres des différentes communautés, permettant de construire un mouvement indépendantiste québécois antiraciste et de démanteler les éléments de racisme systémique dans l'État. C'était « La lutte contre l'islamophobie à Québec », un texte de Sébastien Bouchard, paru le 13 avril 2022 dans la revue « Nouveau cahier du socialisme ».
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Robert Chartier, André Lebeau, Gilbert Lepage et Jocelyne Langevin à la lecture. André Lebeau à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.